Et nous allons découvrir les coulisses de ce qui fait régulièrement l'événement dans la région. Ce sont les spectacles, les grands spectacles que vous découvrez nombreux, nombreux dans les différentes salles du Limousin. Et nous allons accueillir et nous faire accompagner tout au long de la semaine par celui qui est un peu le chef d'orchestre de tout cela, qui nous permet de découvrir ces nombreux artistes. Michel Goudard, le fondateur de Terp Promotion et de Box Office. La première question, Terp, Box, deux entités, deux fonctions.
Deux entités, deux fonctions. Box Office, ben, c'est ce que vous connaissez, c'est la partie visible, c'est la vente de billetterie. Et Euter Promotion, une société qui fait à la fois de la promotion et de la production de spectacles et qui œuvre sur Limoges depuis 1977-78.
Ça commence finalement, je crois, au fin fond d'un magasin de vente de vêtements dans les années 70.
En effet, c'était au fond de la rue de la Boucherie, place Saint-Aurélien. J'avais, dans les années 76-77, créé une boutique qui s'appelait Taj Mahal Boutique, qui vendait, c'était la mode à l'époque, des vêtements importés d'Inde, d'Asie en général, des bibelots, tout un tas de choses. Et j'ai été sollicité tout à fait par hasard pour organiser un spectacle de soutien à un petit journal de la région de Brive-Tulle qui avait quelques difficultés. N'étant pas en odeur de grâce chez eux, ils sont venus à Limoges pour faire ce spectacle. Et on a organisé, j'ai organisé avec des amis le premier spectacle à la salle des Sœurs de la Rivière. Mon premier spectacle, je veux dire, avec quelques copains. Et il y avait Gwendal, il y avait Malicorne, Gianpo Verdier, Jacques-Émile Deschamps, bien connu à Limoges, et d'autres artistes qui étaient venus participer à cette journée. Et puis le hasard le plus complet a fait que mon nom a été retenu par quelques personnes et que l'on m'a proposé ensuite d'organiser régulièrement des spectacles à Limoges. Alors c'est un total hasard, mais moi j'étais bercé avec la chanson française et les grands chanteurs français qui ont un peu tous disparu aujourd'hui. Jacques Brel, Georges Brassens, Trainé, Barbara, Ferré, etc. et tant d'autres. Également avec le jazz, par le jazz. Et c'est vrai qu'à Limoges, j'ai un très bon professeur en la personne de Jean-Marie Mas qui m'a permis d'aller au théâtre, de rencontrer à la rencontre des plus grands du monde du jazz, entre guillemets, traditionnel. Donc il y avait quand même pour moi une ouverture vers ce monde de la musique et de la chanson. Et la première personne qui m'a contacté avait tapé dans le mille en me proposant d'organiser au Grand Théâtre de Limoges des concerts de Tachan, Léni Escudero, Claude Nougaro et Léo Ferré. Donc je ne pouvais pas être insensible à cette proposition et j'ai immédiatement accepté et adhéré bien volontiers à la proposition qui m'était faite d'organiser des concerts à Limoges.
Alors ça fait 35 ans maintenant que l'aventure a commencé, les choses ont évidemment bien changé, on était peut-être tout seul au départ et aujourd'hui c'est loin d'être le cap.
Le nombre de spectacles a augmenté, le nombre de salles permettant la diffusion de ces spectacles dans toute la grande région du Sud-Ouest a aussi fortement augmenté. J'ai longtemps œuvré pour que Limoges ait une salle de spectacle, elle est arrivée, c'est très très bien, c'est un bel outil où on peut travailler de manière correcte et accueillir à Limoges beaucoup plus de spectacles qu'on ne faisait avant.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est quoi? C'est plusieurs centaines de spectacles chaque année?
Sur Limoges, c'est au niveau du Zénith, une quarantaine de spectacles et une petite dizaine du côté du Grand Théâtre et quelques spectacles à John Lennon. Alors après, au niveau de l'organisation générale, sur une année, on fait à peu près 300 spectacles sur le Sud-Ouest, répartis d'une zone géographique qui est quand même très vaste, qui va de La Rochelle à Châteauroux, et suivant la Nationale 20 tranquillement jusqu'aux Pyrénées. Rejoignons Biarritz pour aller voir le vieux port de Biarritz et remontons jusqu'à La Rochelle. Voilà, ça fait un grand rectangle sur lequel on sévit depuis de nombreuses années.
Ça veut dire que ça donne un peu le tournis. On réalise véritablement la somme de travail où on est la tête dans le guidon et mieux vaut pas y réfléchir.
Moi, j'ai pas la tête dans le guidon, mais je ne réfléchis pas. D'ailleurs, ça se sait. D'ailleurs, je ne réfléchis absolument pas, sinon je n'aurais pas fait ce métier. Et comme je suis la tête chercheuse qui ramène des spectacles, je suis plutôt en amont, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas trop quelle année on est. Par contre, je peux vous dire ce qu'on fait en 2012-2013. Mais au quotidien, j'ai du mal à suivre le nombre de spectacles qu'on a de programmés. Dans les villes où ils sont programmés, il y a des collaborateurs qui s'occupent très bien de ça à ma place.
Pour finir sur l'histoire, avant de parler du présent, de ce qui se fait aujourd'hui, le concert de vos rêves, celui que vous auriez pu organiser avec tous les artistes, même ceux disparus depuis bien longtemps, si on avait dû faire une grande scène avec de très belles têtes d'affiche, ça aurait été quoi pour vous?
Ça aurait été une rencontre de guitaristes entre Georges Brassens et Bruce Springsteen. Ça aurait pu être marrant, ça.
Et nous parlons des spectacles et des événements culturels de la région avec Michel Goudard tout au long de cette semaine, le fondateur de Terp Promotion Box Office qui organise ses spectacles tout au long de l'année ici en Limousin. On va parler du choix de la programmation justement, comment ça s'organise très précisément, pourquoi tel artiste, pourquoi pas tel autre dans une région, comment ça se passe, ça se décide à quel moment?
Ça se décide tous les jours. Hier on m'a gentiment appelé, j'étais tranquille dans ma voiture pour me proposer d'organiser dans le sud-ouest la tournée de James Blunt. Des fois, le téléphone ne sonne pas pendant un mois. Et puis, d'un seul coup, en une journée, on a une proposition qui peut regrouper 50, 60, 80 000 personnes. Il n'y a pas de calendrier. Ce qui est plaisant dans ce métier, c'est que chaque jour, on ne sait pas exactement ce qui va nous arriver, de bon ou de mauvais. Généralement, c'est plutôt du bon. Mais chaque jour, il y a une surprise possible sur une programmation que l'on n'entend absolument pas. Et voilà, donc hier, c'était James Blunt.
Alors, ça veut dire que c'est le producteur qui appelle. Est-ce que l'inverse marche aussi? Est-ce que vous pouvez vous dire, j'aimerais bien produire cet artiste, je vais essayer de rentrer en contact avec la production?
J'ai rarement téléphoné pour obtenir des tournées. On existe depuis un certain nombre d'années. Il y a une notoriété sur la qualité du travail fourni par mes équipes. Et généralement, les producteurs viennent vers nous. Mais il est vrai aussi que sur plutôt des jeunes artistes, je prends l'exemple de Zaz, de Ben L'Oncle Soul, c'est moi qui vais un peu, entre guillemets, à la pêche vers les producteurs de ces artistes-là pour dire ben, j'aimerais bien m'occuper d'eux. Si j'ai un coup de foudre, je dis pour le sud-ouest. Si c'est un peu moins fort, je ferai bien 2-3 dates. Mais voilà comment ça se passe.
Vous êtes le promoteur, vous achetez les spectacles, il y a des négociations, comment ça se passe?
Il y a deux façons de travailler. Il y a une façon où on ne dit pas qu'on achète des spectacles, où on est coproducteur avec un producteur d'un spectacle, c'est-à-dire où je prends une part de risque financier. Et il y a des spectacles où on a une part de risque financier qui est très 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 limitée, qui permet de travailler en prenant un peu moins de risques, mais qui nous ouvre aussi la possibilité de réinvestir sur des artistes en devenir. Ce qui change, c'est le paysage général qui tourne autour du spectacle vivant. Vous connaissez tout ce qui se passe au niveau du CD, l'arrivée d'Internet, il y a quand même des bouleversements. Le spectacle vivant s'en sort pas trop mal, mais c'est pas florissant non plus, c'est pas aussi brillant que ce que les médias peuvent dire. C'est pas aujourd'hui la poule aux œufs d'or. Pour les artistes comme pour les organisateurs, c'est beaucoup plus difficile de rentabiliser un spectacle et on a de plus en plus de difficultés à dégager des marges substantielles à la fin d'un spectacle. Vous seriez surpris de savoir qu'en gros on est sur des marges de 2-3%.
Et donc il y a le Zénith, on en a parlé, là ça a été un ouf de soulagement lorsque ce Zénith est sorti de terre.
Alors effectivement, une fois que l'on a eu la confirmation, avant qu'il soit sorti de terre, que le Zénith allait arriver, on s'est un peu penché sur le problème pour essayer d'avoir un Zénith qui soit conforme à nos attentes. Donc on a un Zénith qui est de l'ordre de 5000 places en assis debout, 4500 en tout assis, donc qui est dans une jauge moyenne, qui permet de faire un certain nombre de spectacles, qui ne permet pas de faire, comme certains le souhaitaient à l'origine, quand le Zénith a été validé, tous les spectacles et toutes les tournées. On parlait tout à l'heure, Bruce Springsteen présente ses spectacles dans des salles de plus de 10 000 places. Il est évident que si on voit Bruce Springsteen un jour à Limoges, c'est que ou il aura décidé de faire des salles plus petites ou qu'il aura perdu un peu de clientèle.
Toulouse, la plus belle salle sur le secteur du Sud-Ouest?
Ah non, non, monsieur, vous êtes très très mal informé. Je suis absolument désolé de vous le dire. Toulouse est la plus belle salle de France.
Pardon?
Non, non, c'est vraiment un Zénith qui est parfaitement bien abouti.
En revanche, le Zénith de Limoges, techniquement reconnu par les artistes, c'est une très belle salle.
Oui, oui, au niveau technique, la salle est bien, le son est bon. Voilà. Bon, après, vous connaissez bien la petite polémique autour des stationnements, autour du Zénith, et qui, je pense, empêche une petite fraction de spectateurs de se rendre au Zénith parce qu'ils ont peur de rester bloqués. Mais par pitié, arrêtez de quitter le spectacle avant que l'artiste soit sorti de scène. Ils me demandent tous si le spectacle ne plaît pas, ce qui se passe, pourquoi les gens s'en vont. Restez dans la salle jusqu'à ce qu'on rallume les lumières.
Et notre troisième rendez-vous au cœur de l'organisation des spectacles en Limousin avec Michel Goudard, fondateur de Terp Promotion Box Office. On a parlé de l'organisation de la venue des artistes. Maintenant concrètement, un soir de spectacle, pour vous, le travail du matin jusqu'au soir, qu'est-ce que c'est exactement?
C'est une grosse journée, donc bon, il y a pas mal de personnes qui vont travailler le jour du spectacle. Ça commence le matin par le déchargement des camions, d'aider les techniciens de la production à monter tout le matériel technique sur scène, les décors, le son, la lumière, bon, voilà, tout ce qui va faire le spectacle le soir. Et puis l'arrivée de l'artiste, 18h, 19h, selon les artistes. Et puis c'est l'entrée du public, c'est l'ouverture des portes, c'est l'accueil du public. Et noir salle, et voilà, la magie du spectacle peut démarrer. Mais parfois, l'artiste ne fait que 10 ou 15 minutes et dit au revoir, messieurs, dames. Je parle de, bien sûr, Laurent Gérard, qui malheureusement, le pauvre, était atteint d'un problème aux cordes vocales et qui a dû interrompre son spectacle à Limoges.
Comme quoi, tout peut arriver encore, même une fois le spectacle commencé.
Oui, non, on est dans un métier où à chaque instant, tout peut se passer. On est des itinérants. Et comme toute chose qui est itinérante, on a toujours une fragilité que des structures en dur n'ont pas. Donc il faut jamais baisser la garde, il faut être vigilant à chaque instant, il faut répéter en permanence les consignes de sécurité aux uns et aux autres. On n'a pas le droit de baisser la garde, on peut très vite prendre un mauvais coup.
Ah, c'est-à-dire que vous êtes le promoteur, donc vous gérez de manière globale la situation. Ensuite, il y a le responsable technique, etc., etc. Mais en tant que promoteur, on doit avoir l'œil partout, quoi qu'il arrive.
C'est de ma responsabilité d'avoir l'œil partout. J'ai un dicton depuis quelques années, je dis à ma femme, si je rentre pas un soir, ne me cherche pas dans un autre hôtel que l'hôtel de police.
Et puis il y a des artistes qui viennent deux soirs de suite, là aussi ça veut dire qu'ils ne repartent pas, il faut gérer ces artistes sur place, ça aussi c'est un travail supplémentaire pour les équipes.
Oh, c'est pas un travail, quand un artiste a un succès qui lui permet de rester 2-3 jours dans une ville, c'est plutôt des moments agréables à passer avec lui. Je me souviens d'une balade rue de la Boucherie justement, en compagnie de Bruel qui voulait faire les antiquaires ou qui a été visiter des usines de porcelaine. Je me souviens d'Yannick Noah qui cherchait un coin pour aller taper un match de foot avec son équipe de techniciens, etc. C'est plutôt des moments de détente. Là, le stress est retombé. Voilà, on a fait un spectacle, ça s'est bien passé, il n'y a pas de raison que le lendemain ça se passe mal. Et ça permet de faire un petit peu plus connaissance, de rentrer un petit peu plus dans l'intimité des artistes et aussi des gens qui les entourent, parce que j'aime bien les artistes, mais j'ai beaucoup plus de contact avec toutes les équipes techniques qui sont sur la route depuis des années et on retrouve toujours les mêmes. C'est une mafia le spectacle, hein. Dire on est 7-8 à faire ce que je fais au niveau national, il y a quoi, une grosse dizaine de producteurs à Paris et on est tous là depuis des années et des années parce qu'on a pratiquement tous commencé en même temps à la fin des années 70. Donc voilà, on se connaît tous depuis longtemps et on passe de bons moments lorsqu'on a la possibilité de prendre du temps en dehors d'un one shot, comme on dit, on arrive le matin, on part le soir.
On a toujours l'image un peu des exigences de stars, ça c'est une réalité, c'est plutôt les vieux routards, c'est plutôt la jeune génération après 35 ans d'expérience.
Les exigences, c'est plutôt l'entourage de l'artiste qui s'imagine que pour se faire mousser auprès de leur idole préférée, il faut avoir des exigences extraordinaires. Et souvent, quand vous avez le contact direct avec l'artiste et que vous dites « Mais vraiment, tu veux la marque de whisky, machin, machin, qu'on ne trouve qu'à Dublin ?» Et non, je veux du whisky. C'est pas la même chose. Donc non, il faut relativiser toute chose. Aujourd'hui, c'est un vrai business où tous les jours, il faut assurer un spectacle, il faut avoir une hygiène de vie, il faut avoir une rigueur dans le métier, dans le travail, dans la façon de le faire. Il y a un vrai timing qui est respecté pour pouvoir arriver à faire 60-70 dates. Il y a un artiste aujourd'hui qui réussit très bien, que tout le monde connaît, qui s'appelle Christophe Maé. J'entends dire ici et là, oui, ben, il est arrivé comme ça. Non, détrompez-vous, Christophe Maé, c'est un bosseur. C'est pas un fêtard. Quand on a fait la tournée du Roi Soleil, Christophe était le premier couché, mais aussi le premier levé, parce qu'il commençait par un footing, avant de continuer à travailler son album. C'est un mec qui a vraiment travaillé et qui travaille toujours. Et ça paye, donc c'est plutôt pas mal. C'est une bonne école.
Donc ça veut dire que Christophe Maé a fait son footing dans le bois de la Bâtide, autour du Zénith de Limoges ?
Non, mais devant le Novotel, autour du lac du Novotel.
T'as un autre parcours. Notre avant-dernier rendez-vous autour de l'industrie du spectacle en Limousin, pour prendre notre cas évidemment, avec Michel Goudard, Euther Promotion Box Office. On va s'arrêter sur Box pour être précis aujourd'hui. Le fonctionnement très concret de ce qui intéresse le public, c'est-à-dire la billetterie, hein, ce à quoi le public est confronté. Parce que mettre un spectacle en place dans une ville, c'est beaucoup ensuite de contraintes administratives, matérielles.
Avec la billetterie informatisée, on a gagné un avantage, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de billets imprimés. Il s'imprime au fur et à mesure à la demande du client, donc ça c'est une facilité. Aujourd'hui, on ne pourrait plus travailler avec une billetterie imprimée comme on le faisait autrefois, parce qu'il y a trop de spectacles, trop de différences de catégorie de prix, donc on aurait une masse, un volume de carnets de billetterie à gérer qui entraînerait inévitablement des erreurs. Donc la billetterie informatisée a amené une sécurité au niveau de l'émission des billets. Par contre, c'est vrai qu'à chaque spectacle, il faut configurer, comme on dit, la salle, c'est-à-dire prendre le plan de la salle, faire la jauge de la salle, décider des places qui vont être vendues en première catégorie, deuxième catégorie, etc., etc. Et puis, vous savez maintenant qu'il y a un certain nombre de réseaux qui sont venus concurrencer Box Office, la FNAC, qui a aussi un quota de place, il y a d'autres réseaux qui ont des quotas de place. Moi, ce qui m'amuse toujours, c'est de voir que de ces gros réseaux qui sont des multinationales, ont dans le collimateur ma petite entité de Box Office. J'ai l'impression d'être un peu l'Astérix de la billetterie avec les vilains romains qui essayent à tout prix de nous faire des misères. Mais bon, on résiste. Venez chez nous, c'est 15 rue Jean Jaurès. Au fait, je ne l'ai pas dit, là, c'est 4 fois qu'on se parle et on n'a toujours pas fait de pub. Hein.
C'est vrai que certains se sont demandé, effectivement, il y a les grandes surfaces aussi qui vendent des places. Tout le monde travaille sur le même réseau ou c'est vraiment des places très précises pour chaque entité?
Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un pot commun où chacun va piocher ce qu'il a besoin pour vendre ses places, mais c'est au niveau informatique un peu compliqué à mettre en place. Chacun a un allotement de places et puis vend les places qui lui sont données. Mais au-delà de ça, Box Office a une spécificité qu'on ne compare les autres grands groupes. D'abord, c'est qu'on est une agence connue et reconnue, on est local, on existe réellement. Vous venez rue Jean Jaurès, au 15 de la rue Jean Jaurès, vous allez voir des vraies personnes qui vont vous vendre des billets, qui vont vous conseiller, qui vont vous montrer les plans pour savoir où vous êtes situé dans la salle. Et puis, si vous êtes chez vous, vous prenez tout simplement votre téléphone, vous appelez Box Office et vous pouvez faire un règlement par téléphone et vos places vous arrivent dans les 48 heures chez vous. Et ce service de vente par téléphone, il n'y a que Box Office qui puisse le faire parce qu'on est justement une petite structure et que tous les autres réseaux ne proposent pas ce service-là. Et on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de personnes qui viennent vers nous à travers ce service de renseignement et d'achat par téléphone parce qu'ils ont des vraies personnes qui leur parlent, ce n'est pas des machines automatiques qui disent appuyez sur 1, sur 2, sur 3. Non, non, nous on est là en chair et en os et on vous répond. En plus, lorsque vous allez dans les salles de spectacle, ici ou ailleurs, mais on est à Limoges, parlons du Zénith de Limoges, les personnes qui vont vous accueillir sont également des personnes de Terp et de Box Office. Ce n'est pas des personnes de tel réseau, de telle ou de telle entité. Non, non, c'est nous qui sommes là. Et alors, ce qui est fort déplaisant, évidemment, c'est lorsque des personnes ont commis l'erreur d'acheter des billets ailleurs qu'à Box Office, ils viennent pleurer chez nous en disant oui, je ne suis pas content, j'ai essayé ça, mais on ne peut rien pour eux, malheureusement.
Et puis sur le prix, c'est souvent une remarque qui revient, on se dit, oh là, c'est très cher les spectacles, on ne peut pas y aller.
Non, non, je suis d'accord avec vous, c'est très cher. Mais j'expliquais à un autre moment de notre conversation que l'économie du spectacle était une économie chère. Il y a beaucoup de monde sur la route, il y a des décors, il y a du matériel qui est de plus en plus sophistiqué, donc c'est des coûts techniques, c'est des coûts artistiques, c'est des coûts de personnel, c'est des coûts de location de salle, et il n'y a que le prix du billet que vous payez pour aller au spectacle pour faire cette économie-là.
Et le paradoxe, c'est parfois que les places les plus chères pour certains spectacles, certains artistes, parfois internationaux, c'est ce qui part le plus vite finalement.
C'est toujours ce qui part le plus vite. C'est une chose qui me surprend énormément. Je fais partie de ceux qui ont toujours tendance à vouloir baisser les prix, qui disent aux producteurs, tu crois vraiment que tel prix, tu penses pas que... Et à chaque fois, ils me disent, bah tu vois, tu voulais qu'on baisse de 20 euros, regarde. Puis je pense que là, c'est une vraie sortie, c'est pas... dire en moyenne, les spectateurs vont 3-4 fois par an au maximum au spectacle. Donc on a envie d'être bien placé, on a envie de se faire plaisir. Je comprends ça plus comme ça.
Et notre dernier rendez-vous déjà en compagnie de Michel Goudard, le fondateur de Box Office, de Terre Promotion, l'univers du spectacle et de tous ces artistes. On va terminer ce rendez-vous avec 35 ans de souvenirs. D'abord, retour sur le premier spectacle avant Euterpe.
C'était Salle des Sœurs de la Rivière avec pas mal d'artistes bretonnants au service de Pocus Hebdo, qui est un fanzine de Corrèze, qui parlait des spectacles avant qu'il y ait tous les journaux maintenant qui parlent de l'ensemble de la scène vivante. Voilà, et puis c'était une soirée un petit peu compliquée parce qu'on n'avait pas de savoir-faire quand même. Hein. Puis la Salle des Sœurs de la Rivière, j'ai un souvenir, on veut parler souvenir, grand souvenir, Salle des Sœurs de la Rivière, c'est le concert de Téléphone, dont je pense un certain nombre de vos auditeurs se souviennent. Et on avait accueilli 3000 personnes, Salle des Sœurs de la Rivière. Et je suis revenu récemment, je suis resté très longtemps sans aller dans cette salle, regarder le Limoges abaissé, et je me suis vraiment demandé comment j'avais fait et quelle inconscience j'avais pour faire rentrer 3000 personnes dans cette salle. Ça devait être dans les années 78, mais à l'époque, il n'y avait pas toutes les normes de sécurité et toutes choses. J'avais un franc, aucune règle, parce qu'il n'y avait pas de règle.
Et justement, le plus grand moment de stress en 35 ans ?
C'était le concert de Johnny Hallyday en 2003 au Stade Chambord-Delmas à Bordeaux. Parce que là, on avait une conjoncture qui était plus que compliquée. D'abord, c'était le premier grand spectacle au Stade Chambord-Delmas à Bordeaux. On avait fait, avec mon équipe, tout le cahier de sécurité et d'accessibilité au stade. C'était pas une petite chose. Donc, on était quand même aussi responsable de la manière dont les gens allaient être accueillis. Jamais ça n'avait été fait. On s'est retrouvé sur une année où il y avait la canicule. Donc, il a fallu mettre en place l'arrivée très rapide de quantités incroyables de bouteilles d'eau. On a une chance, c'est qu'il y a une source à Arcachon, à Bâti, qui très gentiment nous a envoyé des semi-remorques d'eau pour tous les gens qui étaient autour du stade, sous la chaleur, en train d'attendre l'ouverture des portes. Et qui plus est, avant d'ouvrir les portes, on avait la grève des intermittents du spectacle. Et il a fallu mettre en place tout un système pour permettre au camion de Johnny Hallyday de venir de Nantes à Bordeaux sans que le convoi ne soit jamais arrêté. Peut-être fait unique dans les annales des péages, mais le péage qui est au nord de Bordeaux, les barrières de sécurité d'arrêt des véhicules ont été ouvertes. J'avais des CRS qui étaient avec moi et les 47 semi-remorques ont passé le péage sans freiner. La voie était pour nous et on était en cortège. Et c'est impressionnant d'avoir, j'étais dernier de file derrière mes semis et j'avais devant moi 47 semis et on fonçait vers le parc Lescure. Ben, je vous dis que tant que les camions n'étaient pas rentrés au parc Lescure, on a quand même une sacrée boule au ventre parce qu'il suffit de très peu de choses pour bloquer un convoi, vous le savez bien. Donc il suffisait d'un rien pour que tout le travail qu'on avait fait pendant 6 mois soit voué à l'échec parce que quelques-uns auraient pensé nous embêter.
Si je demande le plus grand regret, je pense qu'on va reparler de Bruce Springsteen.
Le plus grand regret, c'est qu'il n'y ait eu qu'un seul spectateur, c'est juste pour vous contrarier, à l'Échappée Belle à Limoges. C'est une petite cave qui était dans la cour du temple, qui servait de café-théâtre, qui était un lieu qui était très plaisant. Et il n'y avait qu'un seul spectateur pour Charlie Lee Couture, un seul spectateur payant.
Et ça aussi, ça veut dire un peu de nostalgie quand on regarde des Pascal Obispo, des Calogero qui venaient dans des petites salles à Limoges, qu'on avait du mal à faire venir le public jusqu'à eux et qui aujourd'hui refuseraient presque du monde au Zénith. Ça, c'est presque une fierté de les avoir accueillis il y a quelques années, bien avant tout le monde.
Oui, mais on a grandi ensemble. C'est voilà, la fierté, je pense que Pascal a aussi la fierté de savoir que je suis toujours là à côté de lui depuis qu'il a démarré sur un podium improbable à Talence et que l'aventure continue, on s'est pas quitté depuis qu'on s'est rencontrés en 83-84. On mûrit ensemble et puis c'est bien, c'est la vie.
Pour terminer, l'autre rêve encore inassouvi.
On arrive un petit peu à avoir fait tout ce qu'on avait voulu et prévu de faire jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, le rêve, c'est que de dire « Bon Dieu, pourvu que ça dure ». Mes équipes me sont fidèles, je les en remercie. Le travail continue, on a un an et demi de travail devant nous. L'histoire ne s'arrête pas et tout ce que je souhaite, c'est que même lorsque j'aurai décidé de prendre un peu de recul, qu'elle continue parce que dans l'équipage, il y a vraiment des belles personnes et les gars qui sont autour de moi méritent que ça continue.